BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Le grand journal de l'écho avec Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonsoir Philippe Martinez.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Énormément de questions, questions politiques. Je voudrais, tiens, est-ce que vous allez appeler un peu comme l'a fait du reste Laurent Berger en disant qu'il fallait bloquer le Front National? Est-ce que vous allez, il y a un appel au vote de la CGT pour le week-end prochain dans le cadre des élections législatives?
Non, il n'y a pas d'appel au vote. Ceci dit, on va renouveler, en discuter demain, ce qu'on avait déjà fait pour la présidentielle, c'est-à-dire faire barrage à l'extrême droite et au Rassemblement national qui, ça a été souligné, a progressé aussi lors de ces législatives. On n'a pas changé d'avis sur le sujet.
Oui. Est-ce que c'est donc ça veut dire que vous allez dire il faut faire barrage au Front National.
Comme on l'a fait pour
le Rassemblement National, comme vous l'avez fait.
On n'a pas changé d'avis sur le sujet.
D'accord. Non, mais vous pourriez être un peu plus précis du reste. Est-ce que vous appelez à Est-ce que vous appelez à, par exemple, s'il y a un NUPES, si on ne sait jamais très bien ce qu'il veut dire, face à un candidat La République en Marche, vous appelez à voter pour vous donner des instructions ou pas?
La seule chose qu'on dit, c'est ce que je viens de vous dire, faire barrage à l'extrême droite. En tout cas, pas au niveau national, il n'y aura pas de consigne de vote, je vous le confirme.
Ouais. Est-ce qu'on est dans une situation quand même très compliquée avec les conséquences de la guerre en Ukraine? Évidemment, je ne parle pas des conséquences de ce qui se passe en Ukraine, mais l'inflation, problème d'approvisionnement, on voit beaucoup de métiers qui sont sous tension, on voit un problème de l'inflation absolument considérable, le problème d'augmentation de salaire, une instabilité politique. Est-ce que vous êtes inquiet pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, le prochain quinquennat, Philippe Martinez?
Oui, nous sommes inquiets parce qu'il y a toute une série de problèmes qui existaient déjà avant les choses que vous avez citées, les choses dramatiques d'ailleurs, comme la guerre en Ukraine, et auxquelles les salariés n'ont pas trouvé de réponse. Donc il y a beaucoup de conflits, par exemple, sur la question des salaires, hormis l'inflation. L'inflation ne fait qu'augmenter les difficultés que rencontrent de nombreux salariés. Donc oui, on rentre dans une période conflictuelle, il y a beaucoup de conflits, et la question première, c'est la question des salaires, d'où par exemple les problèmes d'attractivité des métiers. C'est une des premières causes de ces difficultés, c'est pas la seule, mais une des premières, c'est la question des salaires et de la reconnaissance des qualifications. On le voit dans le commerce, dans l'hôtel, dans les hôtels, cafés, restaurants, mais on le voit aussi à l'hôpital, et on le voit dans bon nombre d'endroits.
Est-ce qu'il y a un peu une mobilisation syndicale par rapport à cette situation quand même très difficile, notamment pour les Français? Mais est-ce que vous appelez, qu'est-ce qu'on peut faire sur le pouvoir d'achat? Comment on peut essayer de faire avancer? Est-ce que du coup il y a un front syndical?
Il n'y a pas un front syndical tel qu'on peut l'imaginer, mais enfin, on a des propositions qui se ressemblent. Nous proposons, par exemple, que le SMIC augmente et que lors des augmentations du SMIC, il y ait automaticité d'augmentation des minima de branche. Vous le savez, 85% des minima de branche démarrent en dessous du SMIC. Il faudrait qu'il y ait automaticité du relèvement des minima quand le SMIC augmente. C'est des propositions qu'on a fait au précédent gouvernement, que le président de la République connaît bien, et que pour l'instant on nous dit oui, c'est pas normal, mais pour l'instant il n'y a rien qui se passe. Il y a besoin.
Il a dit qu'il a essayé de faire bouger les choses, Emmanuel Macron. Enfin, c'était le candidat Macron. Oui,
il l'a dit. Oui. Moi, il a dû me le dire plusieurs fois. L'ancien Premier ministre me l'a dit. La première ministre qui était ministre du Travail me l'a dit. Le ministre de l'Économie m'a dit que c'était pas normal. Et rien ne se passe. Et puis, il y a un problème de reconnaissance des qualifications. J'étais jeudi dernier sur la plateforme de Roissy, puisque beaucoup de sous-traitants sont en grève. J'ai croisé une salariée qui est payée, alors qu'elle a un diplôme, elle parle trois langues, elle est payée 11 € par nuit. 11 € par nuit, c'est même pas le prix horaire. Pour toute la nuit. Il y a un problème. Il faut reconnaître les qualifications. Il faut mettre cette question à l'ordre du jour partout dans les branches.
Et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, je sais pas, avec Laurent Berger de la CFDT. Hivernier, maintenant, c'est plus lui, mais je parle il y a encore quelques jours. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord parce que ça aurait du poids de voir les plus grands leaders syndicaux d'accord sur une feuille de route justement pour ce qui concerne le pouvoir d'achat des Français et le salaire des Français. Là, ça fait un peu bizarre, quoi.
Ah oui, mais je suis d'accord avec vous. Moi, ce qui me...
Mais qui n'est pas d'accord?
Ce qui est dommage, c'est qu'on est à partir du moment où on a des points de divergence, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'essentiel.
Ouais.
Par exemple, sur un autre sujet. On est tous contre la retraite, l'allongement
de on va y revenir, bien sûr, à 65 ans.
Bon, je pense qu'on pourrait dire des choses ensemble.
Oui, mais quand vous dites ça, Laurent Berger, il vous répond quoi? Il vous répond pas?
On discute.
Oui, mais enfin, là, vous discutez, là,
Ça n'empêche pas que, dans les entreprises, par exemple, il y ait des salariés, des syndicalistes de la CFDT, de la CGT, de la CGC qui se mobilisent sur ces questions.
Et vous discutez avec Laurent Berger sur quoi? Pour faire quoi?
On fait pas qu'avec Laurent Berger, premièrement, avec mes quatre autres petits camarades, sur la situation et qu'est-ce qui serait le plus efficace pour les salariés. Mais tout le monde le sait, on a des points de différence. Je pense qu'on pourrait se mettre d'accord, par exemple, sur le fait qu'on augmente les minima de branche dès que le SMIC augmente. Bon, nous, on dit tout de suite, et par la loi, la CFDT dit dans les 3 mois, obligation de négocier. Mais on voit qu'on est proche sur ces questions-là.
Oui. Mais vous comprenez, pour les salariés, c'est un peu étonnant. On se disait, mais ils n'arrivent pas à surmonter leurs différends, ou voir leurs égos, je ne sais pas.
Je crois que ce n'est pas un problème d'égo. Il y a des différences.
Elles ne sont pas gigantesques.
Ce que je viens de vous dire, c'est qu'on arrive à le faire dans les entreprises.
Oui.
Dans beaucoup d'entreprises.
Oui.
Et ben, il faut maintenant essayer de le faire au niveau des branches, voire au niveau interprofessionnel.
Pourquoi ça pourrait déboucher sérieusement sur quelque chose, là, ou pas? Il tient son congrès en ce moment, Laurent Berger.
Pour l'instant, il est occupé. Donc,
oui, il est occupé pour son
congrès. On verra ça la semaine prochaine.
Oui. La semaine prochaine, vous allez vous rencontrer la semaine prochaine.
Oui. Je dis que pour l'instant, il est occupé. On verra si on peut aller plus loin avec les autres, syndicats.
Aussi. Est-ce que pourquoi cette politique de la chaise vide vendredi à l'Élysée, où Emmanuel Macron a convié, vous a tous convié à déjeuner, ils sont tous allés sauf vous, Philippe Martinez, alors que la veille vous avez été à Bercy, vous avez été reçu par Bruno Le Maire.
Oui, mais
alors vous allez à Bercy, vous n'allez pas à l'Élysée.
Monsieur Le Maire a été nommé après. Monsieur Macron, vous l'avez noté, j'ai été voir Madame Borne, qui a été nommée, en tout cas après l'élection.
Ben oui,
le président de la République, entre les deux tours, m'avait dit qu'il faut qu'on se voit rapidement. Voilà. Et ben, rapidement, on n'a pas la même notion de rapidement. Et se voir 2 jours avant le premier tour des législatives, je pense que c'était plus de la communication. C'est pour ça qu'on a évoqué un déjeuner de campagne. Qu'une volonté...
Donc il y avait des arrières politiques derrière.
Je pense qu'il y avait des arrières pensées politiques. Il y a des sujets sérieux à discuter. Faisons ça en dehors d'un cadre électoral où on sent bien que, d'ailleurs, toute la semaine dernière, le président était en campagne puisqu'il avait fait beaucoup de déplacements. Il faut... Il ne faut pas essayer d'utiliser les syndicats à d'autres buts que ceux pourquoi ils sont là. Les syndicats, c'est un contre-pouvoir, ils devraient être plus écoutés. Et vous le savez bien, on s'est beaucoup plaint, et pas que la CGT, durant le précédent quinquennat, d'avoir été écoutés mais peu entendus. On trouvait que 2 jours avant le premier tour législatif, c'était un peu gros.
Mais il faut dire qu'il a un agenda très international cette semaine, en l'occurrence, le président.
Je ne veux pas comparer mon agenda à celui du président de la République, mais nous aussi, on a des agendas chargés. Et je vous le dis, il a été élu le 24 avril, c'est ça. Ça faisait plus d'un mois et demi.
Sur la question des retraites, malgré tout, est-ce que vous dites on a été entendu, ou peut-être la CFDT a été entendue?
Non.
Sur la question des retraites, parce qu'on voit bien qu'il décale. Alors certes, il l'a dit dans une interview, ça sera l'été 2023, mais on voit bien qu'on avait le sentiment que ça allait beaucoup
toujours,
plus vite.
Il est toujours sur l'idée de reporter l'âge légal à 65 ou à 64 ans. Je ne sais pas d'ailleurs, compte tenu du résultat des élections dimanche prochain, une partie de son électorat ne va pas le pousser. Je crois qu'il avait un Premier ministre qui parlait de 67 ans, pas le dernier dans son
projet. Celui d'avant. Ouais.
Celui d'avant qui s'appelle Édouard Philippe et qui, je crois, pèse dans cette coalition.
Donc, il était à 65 ans dans sa campagne présidentielle et là, on est plutôt sur 64. Vous-même, vous l'avez souligné.
Oui, mais enfin...
Donc c'est un recul.
C'est un recul de l'âge de la retraite. Aujourd'hui, c'est 62 ans et nous proposons 60 ans.
Oui.
Donc nous avons fait des propositions, encore des propositions à la Première Ministre, sur, avant de discuter du report de l'âge, il y a un problème majeur, c'est pourquoi 42% des salariés ne sont plus au travail au moment où ils atteignent l'âge légal. C'est le fameux emploi des seniors. tout le monde me dit j'ai raison. Alors là, tous les ministres.
À partir de 60 ans, parce qu'on a fait toute une étude avec Emmanuel, le chiffre, de 60 à 65 ans, le taux, je crois qu'il est de 76%. C'est les gens qui ont 55, entre 55 et 60 ans, le problème majeur.
Je vous dis, c'est un chiffre incontestable, que 42% des salariés ou de ceux qui sont en âge de travailler ne sont plus en activité au moment où. Au moment où
il devrait prendre
62 ans. Voilà. 42%. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour les maintenir en activité? Parce que, premièrement, ça fait des chômeurs en plus.
Bien sûr. C'est une question de vaste communicant, finalement.
Et puis, c'est une perte de savoir-faire dans les entreprises. Moi, je connais beaucoup de salariés, vous en connaissez aussi certainement, qui se disent je pars de l'entreprise sans rien laisser derrière moi parce que j'ai pas eu le temps de former un jeune, etc. C'est un peu, on s'en va en catimini. Ben, voilà un vrai sujet, plutôt que de dire on va repousser l'âge légal.
Mais est-ce qu'en tous les cas, la CGT, donc là, vendredi, c'était un déjeuner de campagne, pour reprendre votre expression.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que si vous, après les élections législatives, si vous redemandez de venir, vous irez?
Mais. Je vous répète, je l'ai vu la première ministre.
Oui.
J'ai vu le ministre du Travail.
Oui, Olivier Dussopt, qui sera en invité.
Deux propositions. Ouais. Avant de parler du report de l'âge légal, parlons de deux problèmes majeurs.
L'employabilité.
Je crois que c'est sur cette antenne que Monsieur le Maire a dit Philippe Martinez a raison, il faut s'occuper de l'emploi des seniors.
Bien sûr, oui.
Bon, bah, voilà. Ouais. Après, il y a les questions de financement. On peut regarder les questions de financement. Il n'y a pas, dans l'immédiat, urgence sur le financement de la sécurité sociale et des retraites. Mais comme nous, on veut anticiper, on peut regarder les problèmes de financement. On veut s'occuper des jeunes qui entrent sur le marché du travail à 24 ou 25 ans, et eux, qui, eux, si on continue comme ça, vont partir à 75 ans à la retraite. Voilà des vrais sujets.
Philippe Martinez, on a dit un mot des élections. Là, on voit qu'il y a un peu trois blocs. Enfin, il y a deux blocs qui sont vraiment au coude à coude, que ce soit NUPES ou Ensemble, du président de la République et de sa majorité, puis d'un peu plus loin, le Rassemblement National. Est-ce que si le gouvernement n'a pas sa majorité absolue, est-ce que vous redoutez ou au contraire vous félicitez, mais d'une situation politique qui sera de facto très instable ?
Oui, mais je pense que c'est le principe de la démocratie. Il faut respecter le choix des urnes. Nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est le taux d'abstention. Parce que quand on est en dessous de 50% du taux de participation, puis les jeunes, ça doit poser la question évidemment aux politiques, du rapport à la démocratie, du rapport aux populations. On se plaint, nous, souvent, comme d'autres.
Bah, c'est la même chose pour les syndicats, effectivement. Oui.
Attendez, je vais y venir. Oui. On se plaint souvent qu'ils sont loin. Moi, j'entends souvent des députés qui me disent on travaille beaucoup, mais ils sont loin des préoccupations. Mais ça nous pose aussi la question aux syndicats, et c'est pour ça qu'on veut un syndicalisme de proximité à côté des salariés, pour écouter dès que les salariés, les citoyens ont l'impression que ce qu'on fait, ça, c'est pas visible, et ben, ils votent pas.
Oui, mais c'est pour ça que, en fait, et pourtant c'était un de vos gros combats, et c'était aussi un des gros combats de FO, d'être contre le fait que tout se négocie plutôt au niveau de l'entreprise, plus qu'au niveau de la branche, plus qu'au niveau national. Mais le syndicalisme de proximité, finalement, c'est au niveau de l'entreprise.
Oui,
c'est ça. C'est une bonne chose, ça, finalement.
C'est pour ça qu'on est contre toujours les ordonnances Macron, qui ont réduit les droits des syndicats dans les entreprises. Vous savez que avec la fusion des instances représentatives du personnel, fusion du CE, des délégués du personnel et des comités hygiène, sécurité, conditions de travail, et bien sûr, une personne repose une lourde charge de travail, c'est-à-dire qu'on passe plus de temps en réunion qu'aller écouter les salariés. Voilà Philippe, un vrai sujet où on devrait être entendu par le président de la République.
Philippe Martinez, toute dernière question, pardon, mais c'est un sujet, je sais, qui vous est cher, c'est la filière automobile, puisque vous êtes de chez Renault. Est-ce qu'elle est vraiment en danger avec les décisions qui ont été adoptées par le Parlement européen dans le cadre du paquet climat, les voitures donc électriques interdites à partir de 2025?
Bien sûr, c'est une mesure scandaleuse. Et qui va pénaliser des dizaines de milliers de citoyens de ce pays. Et alors, ce qui est encore plus scandaleux, c'est qu'on interdit les moteurs thermiques, sauf pour
L'amendement Ferrari.
Oui, alors, je vous assure que la prime pouvoir d'achat, il va falloir augmenter si on veut s'acheter des voitures, hein, parce que avec ces prix-là, c'est absolument... Pourquoi on ne réfléchit pas, par exemple, sur le développement du moteur hybride? Il y a eu beaucoup d'investissements de fait et qui ont des conséquences sur moins de conséquences sur le social, mais y compris sur le climat. On ne réglera pas tout avec le tout électrique, parce qu'il faudra construire des batteries, il faut des matières premières, du lithium, il faut recycler les batteries. Donc vous voyez que c'est un peu de la communication. En tout cas, j'ai demandé au ministre de l'économie que le gouvernement français appuie un peu plus pour maintenir, par exemple, les moteurs hybrides.
Ouais. Et donc, une décision que vous considérez comme scandaleuse. Merci beaucoup, Philippe Martinez. Votre succession, on aura l'occasion d'en reparler, hein, puisque vous voulez une femme, c'est une très bonne idée. C'est difficile à la CGT. Hein.
Non, c'est, je pense que quand salariée, une travailleuse sur deux est une femme, il est temps que...
C'est ce que souhaitait Bernard Thibault, et ça n'a pas été possible, souvenez-vous.
On va essayer de faire mieux.
On va essayer de faire mieux.
En tout cas, les syndiqués de la CGT sont prêts.
Bon, merci beaucoup,
merci
c'est déjà ça. Merci, c'est une première étape. Merci Philippe Martinez, évidemment, vous pouvez retrouver l'interview sur le podcast de BFM Business. Dans un instant, tout de suite, le journal avec Claire Ceccaglini.
BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le Chypre.
Bonsoir Emmanuel. Il n'y a pas assez d'épargne pour deux tiers des ménages. Vous nous dites que moins confiants, les Français vont arbitrer en faveur de l'épargne plus que l'inflation, du moins cette année.
Oui, effectivement, hein, le choc inflationniste, il a deux effets sur la consommation. Il y a l'effet mécanique, la ponction sur le pouvoir d'achat, et puis il y a l'effet sur la confiance. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans toutes les enquêtes sur la confiance des ménages menées dans les économies majeures de la zone euro, eh bien, ces derniers seraient très pessimistes, aussi pessimistes, voire plus qu'ils ne l'étaient au plus fort de la pandémie. Et ça modifie l'arbitrage entre consommation et épargne, au-delà, effectivement, de l'impact mécanique, encore une fois, de l'augmentation des prix sur le pouvoir d'achat. Et selon les calculs des économistes d'Allianz, les consommateurs français, eh bien, finalement, dépenseront, alors on parle par famille, par ménage, ils dépenseront 440 euros de moins sur l'année que ce qu'ils auraient dépensé spontanément s'il n'y avait pas eu cette vague d'inflation. En Italie, la chute de confiance est telle qu'on peut évaluer la perte de consommation à non pas 440 euros comme en France, mais à 1100 euros par ménage. Arbitrage en faveur de l'épargne, donc, alors que cette épargne avait déjà beaucoup augmenté pendant la crise sanitaire, mais alors à l'époque, c'était plus de l'épargne forcée. Et le problème, c'est que cette épargne, elle est formale répartie, puisque pour les ménages les moins aisés, ce surcroît d'épargne atteint seulement 93 euros par ménage, nous dit Allianz, contre 8700 pour les ménages les plus aisés. Et donc, tout ça n'est pas suffisant pour les plus modestes pour faire face à l'augmentation de la facture alimentaire et énergétique, puisque Allianz estime que la facture alimentaire au niveau des ménages européens, ce sera 550 euros de plus cette année, et la facture énergétique, ce sera 750 euros par ménage. Vous voyez, quand vous cumulez les deux, c'est 1400 euros de dépenses supplémentaires, et tout le monde n'aura pas l'épargne qu'il faut pour y faire face.
Ouais, mais donc, c'est quoi la solution ?
La solution, c'est que chaque gouvernement va s'échiner à trouver les solutions les plus originales pour effectivement essayer de compenser cette augmentation. Mais en tout cas, on ne pourra pas compter que sur l'épargne des ménages. C'est pour ça qu'il faut vraiment privilégier tous les dispositifs qui ciblent effectivement les plus faibles, puisqu'on voit que les familles les plus aisées, finalement, eh bien, elles ont quelque part les moyens de répondre à cette
augmentation. D'y faire face, bien sûr. Oui, mais on voit que c'est compliqué.
Des prix alimentaires et des prix de l'énergie.
Difficile.
Donc, la priorité, c'est vraiment de cibler les dispositifs sur les ménages les plus fragiles.
Merci. En tous les cas, lui, il a une des solutions. C'est le patron du Bon Coin qui est notre invité, Antoine Joutot. Le Bon Coin, du reste, qui cartonne avec la revente de produits d'occasion, mais aussi sur les emplois, sur les voitures, sur les maisons. Il va tout nous expliquer. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Antoine Joutot, directeur général du groupe Le Bon Coin. Bonsoir Antoine
Joutot. Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On parlait du fait que parfois vous êtes victime de votre succès, c'est-à-dire que de temps en temps il y a des arnaques, mais on y reviendra. Je sais qu'en tous les cas vous mettez tous les moyens à disposition pour essayer de lutter contre. Mais voilà, quand on a 100 millions de transactions, c'est difficile de tout vérifier, c'est même impossible. Est-ce que justement dans ce contexte de difficulté de pouvoir d'achat, d'inflation, ça vous profite, ça profite incroyablement, non, si on regarde les derniers chiffres du Bon Coin?
Oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, les Français cherchent plus de pouvoir d'achat, ils cherchent à générer des revenus et ils cherchent à acheter moins cher. Mmh. Côté génération de revenus, on parle quand même de 300-400 euros par an de revenus générés via le Bon Coin. Alors, est-ce que c'est vraiment des revenus ou des petits coups de pouce, ça fait quand même plusieurs centaines d'euros. Quand on regarde le salaire médian, c'est significatif. Et puis côté acheteur, là on parle vraiment d'une accélération. On a sur le premier trimestre, il y a eu 41% de transactions supplémentaires par rapport au premier trimestre de l'année 2021. Donc c'est vraiment une tendance d'accélération d'acheter
d'occasion. Par rapport à 2019 ?
Par rapport à 2019, là on parle plutôt de 100%.
Ouais, ouais.
Et c'est vraiment lié à une problématique de pouvoir d'achat. Une problématique aussi de mieux consommer, mais dans le pouvoir d'achat, vous savez, dans l'achat sur le Bon Coin, il y a à peu près 80% des achats qui se substituent à un achat neuf. Donc vraiment, il y a une bascule de consommation.
Mais vous le voyez dans vos chiffres, vous le voyez dans les comportements, comment on va faire, je veux dire.
On le voit à la fois, donc dans les 40% d'accélération de volume, mais on le voit aussi dans la montée des prix de certaines catégories. Ouais. En automobile, par exemple, c'est le secteur sur lequel qui a été le plus touché. On parle de 30-40% d'augmentation des véhicules d'occasion sur 2 ans, c'est énorme. On parle aussi sur les téléphones, parce qu'aujourd'hui, il y a pénurie de téléphones, ou parce qu'il y a une montée des prix des téléphones à cause des prix du pétrole, à cause des puces, etc., de plusieurs dizaines de pourcents parfois. C'est un mouvement qui se produit un peu partout, sur les pièces automobiles aussi. On l'observe aussi sur les activités multimédia, mais pas uniquement les téléphones. C'est un phénomène d'inflation sur les produits d'occasion, mais vous imaginez la comparaison par rapport au neuf, c'est flagrant.
Ouais, c'est impressionnant, 30 à 40% d'augmentation sur les prix de voitures d'occasion. Il faut dire que les constructeurs ils délivrent plus. Donc si vous prenez une commande, vous l'avez dans 6 mois, dans 7 mois, dans 8 mois.
C'est le critère de choix. Le critère de choix, c'est la question, c'est les gens ont besoin d'un véhicule pour aller travailler. Quand est-ce que je peux avoir ce véhicule d'occasion ou ce véhicule, ils appellent leur constructeur, et en ce moment, certains constructeurs sont capables de livrer, d'autres pas, ou avec un délai plus important, alors que le véhicule d'occasion, lui, est disponible. Et se joue un phénomène d'augmentation des prix mécanique.
Ouais. Comment est-ce que, lorsqu'on regarde, vous parlez d'une inflation quand même très significative, c'est surtout sur les voitures, vous dites que l'inflation était la plus forte?
La réalité, c'est sur les voitures, il y a eu sur l'immobilier, mais c'est en train de se stabiliser. Mmh. Et puis ensuite, sur les biens de consommation, ça c'est plus nouveau, on le sort depuis le mois de février, avec des produits qui sont victimes de carences, de manque. Où on voit déjà une inflation qui se produit sur certains prix d'occasion.
La moyenne d'occasion, c'est... On ne trouve plus de moutarde.
Alors, attends, je ne sais pas sur
non, moutarde. Non, je sais bien qu'on ne trouve pas de moutarde, mais ça...
C'est une réalité, on ne trouve pas de graines. Ouais. Mais par exemple, clairement, sur les catégories de loisirs, tout ce qui utilise en fait du pétrole et de l'électronique est en train d'augmenter et de manière significative.
Ouais. Le nombre, aujourd'hui, vous êtes à combien d'annonces?
Aujourd'hui, on est à 55 millions d'annonces. On s'était vu il y a quelques mois, je crois, on avait franchi nos 50 millions. On est déjà à 55 millions d'annonces. Et ce qui est important, c'est que les annonces restent moins longtemps. Donc, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a une vraie tension offre-demande qui est en train de se produire parce que on est, je pense, un très bon observatoire de l'économie française et l'économie est en train de se contracter un peu, pas partout. Ça voudrait dire aussi qu'il va y avoir des opportunités pour les Français d'acheter moins cher, de vendre plus, parce que on rentre dans une phase d'incertitude qu'un site comme Le Bon Coin peut accompagner.
Quelle analyse vous faites, Antoine Joutot, de tout ce qui se passe, de tout ce que vous nous décrivez?
Je pense qu'on est en train d'assister à un transfert assez majeur de consommation. À la fois pour mieux consommer, parce que c'est une réalité aujourd'hui, les gens qui utilisent Le Bon Coin, à 90%, ils le font aussi pour avoir une consommation plus raisonnée. parce qu'ils veulent acheter différemment, ils ne veulent plus jeter, parce qu'ils voient leur environnement changer. Et ça, c'est une réalité. Et puis, à côté de ça, il y a le pouvoir d'achat qui est un sujet...
Justement, quelle est la principale motivation ? Je ne sais pas si vous arrivez à les distinguer. C'est le côté économie circulaire ou alors c'est le pouvoir d'achat ?
Ah non, c'est le premier, ça a toujours été le pouvoir d'achat. Alors lui, il est inamovible. Ça a toujours été la raison d'usage de Boncoin. Et la seconde raison, par contre, c'est la consommation raisonnée. Et ces deux raisons-là sont des raisons qui sont maintenant des associées. C'est-à-dire que les gens ont compris qu'ils pouvaient mieux acheter, mais moins cher, et en tirer des bénéfices.
En tous les cas, lorsqu'on regarde les chiffres de la CPM, Snapchat et Le Bon Coin sont en tête des sites et des applications en mai 2022. C'est-à-dire vraiment, vous êtes devenu incontournable. Sur l'immobilier, oui. Sur les emplois, vous êtes combien sur l'emploi ?
Entre deuxième et troisième site, ça dépend de ce qu'on prend comme classement.
Oui.
Mais en tout cas, on voit aujourd'hui une tension énorme, notamment sur les métiers de l'industrie, de la restauration, des services. Il y a une vraie pénurie et de beaucoup d'entreprises qui recrutent et qui vont attaquer la saison et qui n'ont pas les ressources pour traverser cette saison-là.
Et justement, combien les secteurs qui n'ont pas de réponse à leur offre sur Le Bon Coin ? C'est donc tout ce qui est hôtellerie, restauration.
Aujourd'hui, ce sont vraiment les emplois saisonniers, la culture, les récoltes, les métiers de l'industrie qui sont en plus avec des accélérations et des pauses, puisque en fonction des matières premières, vous avez les métiers des services, des commerciaux. Vraiment, il y a des effets de mouvement très importants qui se produisent. Et nous, on est, je pense, un bon observatoire de cela.
Oui, même très 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 fortement. Hein. Sur les emplois, justement, les propositions, vous voyez est-ce que vous voyez un changement de comportement du côté des patrons, c'est-à-dire que est-ce que avec des salaires plus élevés, des conditions de travail, est-ce qu'ils mettent ça en avant ?
Alors on l'avait déjà observé depuis déjà l'été dernier, notamment sur les emplois saisonniers, on a observé une inflation des taux horaires. On a observé aussi des meilleures conditions où il y a même des patrons qui offrent des hébergements, des transports pour amener les saisonniers, une réduction du temps de travail. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de mesures d'accompagnement qui sont, ou même des patrons qui font des efforts de rédaction pour attirer.
Oui, c'est ça, ça évolue. Ouais,
donc, ça évolue parce qu'il y a une vraie tension. Je lisais il y a quelques jours qu'on manque de dizaines de milliers d'emplois sur les côtes françaises, ne serait-ce que pour faire fonctionner l'industrie touristique pendant 2 mois. Et ça, c'est quelque chose d'assez déstabilisant quand même.
C'est plus de 100 millions, je disais, de transactions hors immobilier, hein, bien sûr.
C'est hors immobilier.
Et avec l'immobilier, ça fait ?
Aujourd'hui, l'immobilier en France, c'est 1 million de transactions par an environ. Et Le Bon Coin pèse certainement quelques centaines de milliers de ces transactions-là. Ouais, en valeur, c'est très important. C'est en nombre de transactions que c'est assez faible, mais c'est un marché. On va voir comment ils veulent évoluer dans les prochains mois parce que il était pas en surchauffe, mais il était en très forte activité ces 3 dernières années. Et là, l'entrée dans la guerre de l'Europe va. Les marchés immobiliers aiment pas trop ce type de contexte. Donc on va voir comment le marché va se comporter dans les prochains mois.
Antoine Jouteau, il y a eu. Est-ce que vous n'êtes pas sous-dimensionné, parce que quoi, grosso modo, vous êtes 1500 collaborateurs. Donc là, on a dit plus de 100 millions de transactions. Combien d'annonces, vous l'avez dit
55 millions.
55 millions, voilà. C'était plus de 50 millions, mais je n'avais plus le chiffre. Est-ce qu'avec 1500 personnes, pour regarder tout ça, pour vérifier les transactions, on voit bien, bon, il y a eu ce qui s'est passé, évidemment, dans le sud de la France, avec les arnaques à l'automobile, vente d'automobiles. On sait que ça existe un petit peu quand même dans les appartements. Est-ce que vous n'êtes pas sous-dimensionné? Parce que devant l'ampleur, ou devant le succès, en fait, quelque part du Bon Coin.
Non, on n'est certainement pas sous-dimensionné. On a une taille très importante. D'abord, technologiquement, aujourd'hui, 100% des annonces sont contrôlées.
Oui.
Après, c'est impossible d'être parfait. Mais par contre, 100% de nos annonces sont contrôlées. Ensuite, on a des vérifications humaines qui interviennent. On a nos utilisateurs aussi qui nous aident à signaler. Et on passe énormément de moyens à contrôler nos annonces. Ça reste une toute petite partie, vraiment c'est une infime partie qui pose un problème et on est très vigilant. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a lancé un système de paiement et de transaction qui permet de sécuriser la transaction. Alors on l'a lancé il y a 2 ans juste avant le Covid pour faire du paiement et de la livraison, mais aussi maintenant vous pouvez faire du paiement en face à face. Ça cartonne. parce que vous pouvez réserver votre produit et ensuite vous déplacer et vérifier le produit. S'il vous convient pas, vous pouvez annuler votre paiement. Donc, on a vraiment une stratégie de sécurisation, d'information sur la plateforme. On a des systèmes de profil, de messagerie, d'avis qui se sont installés justement, qui aident à prendre la décision sur la décision d'achat.
Et est-ce que vous n'êtes pas quand même concurrencé? Donc, il y a un autre site aussi, alors qui justement joue sur la confiance et les gens de confiance. On en avait déjà parlé, mais là aussi, ça prend un essor considérable. Il y a aussi Vintage qui est pour tout ce qui est vêtements. Et puis vous avez aussi Back Market. Vous avez, je recevais le patron du printemps aussi, qui on peut revendre ses vêtements. Vous commencez à, en tous les cas, il y a une vraie concurrence.
Alors, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'en fait, ce qui est en train de se produire, c'est que tous ces acteurs-là, ils font grandir le marché. Ouais. Le marché de l'occasion, c'est pas un boom, il est en train de s'installer comme un usage, et qui va être l'usage majeur dans certains secteurs d'activité, d'ailleurs, comme la mode, comme le multimédia, comme l'univers de la maison, des loisirs. C'est l'usage qui va s'installer. Je pense qu'il faut qu'on se réjouisse tous que tous ces acteurs-là, y compris les acteurs de l'industrie et de la distribution, du retail...
Ça fait la concurrence, hein, quand même, oui.
Ben en fait, vous savez, la concurrence, quand ces acteurs-là arrivent, en général, ce qui se produit, c'est que c'est le leader qui prend en général les bénéfices de cela, parce que ça crée de l'usage, ça crée de la stimulation, et puis ensuite, les gens comparent sur l'efficacité.
Ouais. Antoine Joutot, vous dites donc, vous avez les moyens suffisants. Est-ce que vous avez l'argent suffisamment solide pour assurer votre développement? Vous avez déjà posé la question peut-être de votre indépendance par rapport à votre actionnaire, parce qu'on oublie que vous n'êtes pas français souvent, parce que le bon coin, c'est quand même nous. Introduction en bourse, on voit les efforts qui ont été faits, tout ça, vous y réfléchissez en tous les cas?
On appartient à un groupe coté, qui s'appelle le Adevinta, qui est introduit qui est à la bourse d'Oslo. Yeah. Oui, on a tous les moyens financiers pour se développer, c'est ce qu'on fait. On fait d'investissements sur la France, en termes de recrutement, en termes de marketing, et on investit aussi dans les autres pays du groupe Adevinta, en Allemagne par exemple, qui est un pays important pour le groupe Adevinta. Si on a tous les moyens, on n'a aucun problème de financement. Justement, c'est la beauté de notre business model, qui justement est capable justement de générer du cash. Et ensuite, on est toujours très ambitieux pour continuer à croître.
Donc vous avez les moyens de votre développement. Et parce que là, on est à 55 millions. Vous venez me voir, je sais pas, à la rentrée, on sera à combien après l'été?
Peut-être 57, 58.
Ouais.
Oui, parce que la croissance s'accélère beaucoup pendant la période, sur justement les biens de consommation. Donc j'espère à la fin de l'année frôler les 60 millions. Ça sera encore un anniversaire, une occasion de se voir.
Merci beaucoup Antoine Joutot d'avoir été avec nous, directeur général donc du groupe Le Bon Coin, avec ses quelques 100 millions de transactions. Merci. Dans un instant, on restera un peu dans la tech. Lui, il est co-président, c'est même lui qui a inventé Vivatech. Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis, sera avec nous.
BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Notre invité Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis et cofondateur du salon Vivatech. Bonsoir Maurice Lévy.
Bonsoir.
Donc c'est le grand jour, mercredi prochain, ouverture de Vivatech. Pendant 4 jours, il y aura des gens qui viendront un peu du monde entier nous expliquer quel sera le monde de demain, et Dieu sait qu'il change. Je voudrais quand même vous poser 2-3 petites questions avant. D'abord, résultat des élections législatives, premier tour. Je ne vais pas vous demander qu'est-ce que vous allez voter ou pas, non, ça c'est pas la question. La question, c'est quand même grande incertitude politique. On est dans une grande incertitude économique, incertitude politique. Est-ce que là, vous commencez à vous dire... La situation se tend. Je posais la question à Philippe Martinez, de la CGT avant vous voyez, donc c'est l'opposé sur l'échelle de Richter du capitalisme, si j'ose dire.
Les choses sont tendues depuis pas mal de temps. C'est clair que les Français connaissent des situations très difficiles et que l'inflation, que tout le monde appelait de ses voeux, on voulait un peu d'inflation, on en a beaucoup, ce qui n'est pas bon du tout. L'inflation pèse sur le revenu disponible des ménages de manière extrêmement forte, et de ce fait, il y a un mécontentement et des angoisses. Des angoisses qu'on avait déjà identifiées depuis pas mal de temps. Je veux dire que vous avez eu la gentillesse de m'accueillir pour que je
parle de mon livre. Le livre que vous avez écrit, Ouvrez vos yeux, du reste, oui.
Et oui, oui. Et bien...
C'est sur les classes moyennes, hein, mais là, oui, ça concerne tout le monde. Hein,
mais ça concerne tout le monde. La classe moyenne, c'est le cœur de la société française et qui, déjà, depuis de nombreuses années, donnait des signes d'inquiétude. Donc, oui, il y a une situation un peu tendue. Maintenant, moi, j'ai confiance dans le résultat de l'élection à venir. Je pense que le président aura une majorité, sans doute courte, mais qu'il aura sa majorité.
Absolue, parce que
absolue,
c'est,
oui,
c'est
oui.
La question, c'est absolu ou pas absolu.
Oui, oui. Oui. Non, d'accord, non, okay, je parle de majorité, je ne parle pas de majorité relative.
Bien sûr, non,
je parle de la majorité qui lui permettra de gouverner. Je pense qu'il l'aura, que ce sera un peu tendu, mais quand on regarde un peu l'échiquier, je pense que ça devrait pouvoir se faire. Je ne crois pas qu'il aura une majorité écrasante comme celle qu'il a eue pour le premier
quinquennat. Est-ce que vous dites que, heureusement, peut-être que du coup, ça va peut-être lui apprendre à demander aux uns aux autres, à concilier peut-être les différentes positions. Il est parti vendre vous sur la réforme des retraites. Là, on sent que quand même, il tergiverse, il écoute.
Je ne vais pas m'exprimer là-dessus parce que je ne sais pas du tout ce qu'est le projet du président, le projet définitif du président
en matière de retraite. Sur la méthode, mais puisqu'il parle de nouvelle méthode, de nouvelle gouvernance.
Plus on a un Parlement qui joue son rôle et où il peut y avoir des écoutes, la prise en compte de points de vue, plus on a de chances d'avoir un consensus. Cela dit, il faut en même temps faire des réformes, et les réformes sont rarement consensuelles. Quand on veut faire des réformes, et quand on connaît la situation de la France, il est clair que par rapport à un certain nombre de pays, nous sommes à la traîne sur pas mal de sujets, les réformes sont nécessaires, et donc j'espère que le président aura les moyens de faire ces réformes.
Oui, d'accord, donc vous, ce qui vous inquiète, c'est que le président, dans son second quinquennat, ne poursuive pas les réformes qu'il a fait en...
Non, je ne sais pas ce que j'ai dit du tout.
C'est un petit peu ça, quoi. Vous voulez qu'il continue ses réformes.
Je dis que j'espère qu'il aura la majorité qui lui permettra de faire ses réformes.
Voilà, c'est ça. Oui.
J'exprime pas une inquiétude sur le fait qu'il ne pourra pas les faire.
Oui, mais enfin, c'est sûr que s'il n'a pas de majorité,
c'est vrai,
ça
s'il
n'a
pas de majorité,
compliqué.
Il ne pourra pas les faire.
Tiens, le Besson, le directeur de la communication, enfin l'homme clé de la communication d'Emmanuel Macron, Clément Lerduzzi, revient... à Publicis, on revient chez vous, Maurice Lévy. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un peu comme pour les hauts fonctionnaires, les grands dirigeants, les ministres, après c'est compliqué quand même pour eux de retourner ou d'aller dans une entreprise. Là, est-ce que ça ne pose pas un peu le même genre de questions?
Ah, pas du tout, puisque à aucun moment il n'a été impliqué dans quelque relation que ce soit avec Publicis, et il est passé par la commission déontologique, et la commission déontologique a approuvé le retour de Clément Lerduzzi à Publicis. Je pense que c'est assez naturel et c'est normal. Il nous avait quittés pour remplir une mission auprès du président de la République. Il remplit sa mission, le président est réélu et il retourne...
Pour faire quoi ?
Pour faire ce qu'il faisait si bien et d'une manière un peu plus importante, conseiller des chefs d'entreprise, conseiller des entreprises, conseiller des marques et veiller à ce qu'il puisse gérer
Macron.
La communication de crise de certaines entreprises, etc.
Maurice Lévy, ouvre ses portes donc le grand salon que vous avez créé, le Vivatech.
Oui.
Salon de toutes les technologies. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on rentre même dans une nouvelle période. Du reste, il y a 6 thèmes que vous allez nous expliquer, nous développer. Mais on voit bien, il y a eu avant Internet, etc. Mais maintenant, on rentre dans une autre phase. Comment est-ce que vous avez déterminé quels seront les sujets phares, justement, de ce Vivatech?
Alors, il y a 6 sujets phares, mais le premier, le plus important, c'est comment lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, donc l'empreinte carbone. On sait très bien que
arrêtez d'envoyer des mails, là. Je pense que vous n'y arriverez pas, Maurice Lévy.
Il n'y a pas seulement d'arrêter d'envoyer des mails, il y a l'arrêter de les imprimer, mais il y a surtout comment est-ce que la tech peut être, peut constituer une solution pour réduire les émissions de carbone dans d'autres activités. Comment est-ce qu'on peut réduire la consommation électrique dans d'autres activités?
Je crois que ça va représenter 15%, 20% des gros de l'électricité, la production d'électricité, tout ce qui est data center.
Pas tant que ça, non.
Enfin, c'est les chiffres qui circulent, chacun ses chiffres.
Mais de toute façon, quel que soit le chiffre, il est énorme. Mais c'est pas 15 ou 20%, c'est de l'ordre de 4 ou 5%. Mais c'est énorme, 4 ou 5%. Donc il y a le carbone. Le deuxième élément, c'est la mobilité, avec beaucoup de projets, beaucoup d'ailleurs de prototypes qui vont être présentés. Le Future of Work, avec un volet sur l'inclusion. L'Europe, qui est un élément très important et sur lequel on est. Et puis, bien entendu, le Web 3, c'est-à-dire que se passe-t-il avec, d'une part, ce qu'on appelle les cryptocurrencies, et d'autre part, avec tout le secteur de la blockchain, du métaverse, et comment est-ce que le Web va évoluer dans l'avenir.
Oui, et c'est ça la partie, j'ai envie de dire, la plus innovante, en tous les cas, pour Vivatech, non? Parce que
oui,
c'est presque un nouveau monde qui est en train de se créer, et donc des nouveaux débouchés.
Oui, c'est le nouveau web, Web 3. Il est là juste en émergence. Hein. On est très loin d'avoir les développements qui sont attachés au Web 3. Il va y avoir, ça c'est un point très important, je vois un peu ce qu'on montre, il va y avoir 45 000 mètres carrés, 2000 exposants, 1700 start-up vont présenter des innovations, et il y a plus de 50 innovations qui vont être présentées pour la première fois dans le monde, avec en plus des choses assez extraordinaires comme un concept car d'Audi, vraiment il y a énormément de choses nouvelles et impressionnantes, avec en plus une lignée d'entrepreneurs et de...
Oui, quels sont les grands patrons qui viennent? Parce que, tiens, j'ai vu que le patron de Meta, enfin Facebook, il vient pas, Zuckerberg?
Non, Mark Zuckerberg.
Pourquoi? Parce qu'il est, non, il est quand il y a, même un alors, peu...
Non. Il y a des raisons qui sont spécifiques à chacun.
Déstabilisé, non?
Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous prenez l'exemple de Satya Nadella, il a un board. Du côté de Meta, ils ont également une...
a démissionné, donc bon...
Non, mais même avant, c'était prévu qu'ils avaient une espèce de off-site, comme on dit, un meeting de tout l'état-major, donc ils ne peuvent pas être là. Mais il y a Evan Spiegel.
Ouais.
Evan est le fondateur de Snap, et il va nous parler dans une période qui est quand même extrêmement riche et intéressante, dans la mesure où Snap est un petit peu chahuté, donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quelle est sa stratégie? On va avoir aussi le patron de la plateforme Binance. Il faut savoir que la plateforme Binance a été fondée par un Chinois qu'on appelle Sisi, avec son accord. Et son nom est difficilement prononçable. Et elle traite 60% des cryptocurrencies. Donc, du Bitcoin, Ethereum. On a le fondateur d'Ethereum qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et puis, on a quelques très grands patrons qui vont être là. Luca Di Meo, qui va présenter aussi un modèle et qui va avoir une conversation avec le patron de Qualcomm. Il y a quelqu'un qui n'est pas connu en France, qui est Sunil Bharti Mittal. Et l'Inde est Country of the Year.
L'Inde est le pays mis en avant, justement.
Absolument.
À la présence. Pourquoi vous avez choisi l'Inde, Maurice Lévy? C'est vrai, on sait l'importance
est devenue,
de la technologie.
On a décidé d'avoir un Country of the Year, de le mettre en avant, un pays. Et on a décidé de faire de l'Inde le pays de l'année, tout simplement parce que quand on voit la progression extraordinaire de l'Inde dans le domaine des startups, c'est assez impressionnant. Ils ont déjà 100 licornes, ce qui est quand même pas mal.
On est un peu en retard, on est un peu en retard.
Mais on a aussi quelqu'un qui revient, qui est Eric Schmidt, Et il va venir avec Schmidt Futures et il va avoir une conversation avec Yann LeCun de Facebook, ce qui va être un grand moment parce qu'ils vont parler d'intelligence artificielle. Il y a Jimmy Wales.
Vous avez vu justement qu'ils ont viré quelqu'un de leurs ingénieurs chez Google parce qu'il avait découvert qu'il y avait un des logiciels d'intelligence artificielle qui avait quelque part une conscience. Non, un petit peu comme un salarié. Ça vous inspire quoi, Maurice Lévy?
Ça m'inspire Odyssée 2001 de l'espace.
Oui, oui.
Avec quand même HAL.
Vous y croyez, vous y croyez pas, la forme de conscience? Vous y croyez pas, d'accord.
Pas du tout. Voilà. J'y crois pas. Oh. Non, je crois qu'on peut en simuler des choses, mais non.
Est-ce que, par exemple...
Et puis, il va y avoir Albert Bourla, le CEO de Pfizer, qui va avoir une conversation avec un chercheur absolument fabuleux qui peut faire des tests à base d'intelligence artificielle, ce qui évite de tester certaines molécules de manière dangereuse.
Et il y aura le patron de L'Oréal, Nicolas Hieronymus, qui sera notre invité dans le Grand Journal mercredi.
Absolument.
En direct de Vivatech, vous voyez, Maurice Lévy. Est-ce que vous, là, à cheval, Vivatech, Publicis, vous, est-ce que vous travaillez, vous regardez dans le métaverse, par exemple, quand vous faites vous travaillez avec des entreprises, vous y croyez au métaverse? Je vous vois remettre votre veste là.
Non, mais
est-ce que vous y croyez?
Alors, vous allez voir.
Non, mais vous, on va voir tout, oui. Mais vous,
bien sûr que j'y crois.
Est-ce que vous demandez à vos équipes chez Publicis s'ils travaillent dessus ou
alors,
pas?
Une innovation. À Vivatech, des équipes de Publicis dans l'univers du métaverse.
Ah ben voilà.
Voilà. Ouais. Je vous l'annonce. Ça n'a pas été annoncé. Ils vont m'en vouloir de l'annoncer comme ça. Et on m'en veut à chaque fois parce que chaque fois que je viens vous voir, je lâche des choses qu'on me dit non, pas maintenant. Mais voilà. Et il va y avoir quelque chose d'exceptionnel qui est présenté par les équipes de Publicis qui l'ont développé et qui travaillent déjà sur le métaverse et qui font déjà des choses qui sont exécutées pour le client, pour nos clients, de manière extrêmement efficace et ça fonctionne.
D'accord. Et ça sera quand?
Mais ça fonctionne, ça sera toute la semaine.
Non, mais vous êtes présenté quand
Toute la semaine.
Tous les 4 jours de Vivatech.
Vous viendrez nous voir à Vivatech et je vous accompagnerai pour vous montrer cette innovation.
Les NFT, vous y croyez?
Mais bien sûr.
Oui.
Mais bien sûr. Alors, je ne crois pas aux NFT qui vont systématiquement faire 70 millions de dollars comme ce fameux NFT qui s'est vendu à ce prix. Mais je crois que c'est une forme d'art qui va fonctionner et je crois que cet échange, c'est avec ces produits digitaux qui sont virtuels, cet échange va fonctionner et le monde a besoin et l'homme a besoin de beaucoup d'innovation et de beaucoup de choses. Et donc, chaque fois qu'il y a quelque chose de neuf, il se l'approprie et il l'adapte à ses besoins et il le transforme. Et donc, NFT fonctionnera et réussira. Y compris dans le domaine de l'art.
Maurice Lévy, en même temps, Vivatech, c'est maintenant. Dans une période où on a vu quand même un crack sur les bitcoins, on a vu toutes les valeurs de la tech un peu s'effondrer à Wall Street. Et donc, ici même aussi, on voit bien que la folie, elle est un peu derrière nous, en tous les cas. C'est un contexte plus difficile pour les techs.
Mais c'est vrai.
Le Vivatech est mollo les techs.
Non, pas du tout. C'est Vivatech et moi, je rêverais d'avoir beaucoup d'entreprises qui ont, y compris de manière déprimée, les valorisations de ces boîtes de tech. Parce que quand vous êtes encore au-dessus du trillion de dollars ou de 2 trillions de dollars, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars, c'est quand même impressionnant. Alors c'est vrai qu'elles ont subi un contre-coup, c'est vrai que leur valorisation s'est un petit peu réduite. Il se peut que d'ailleurs qu'elles passent par encore un cycle plus profond, mais il y a le cycle à venir avec le Web3 et je suis persuadé qu'il y aura des gens qui vont souffrir et il y aura d'autres qui vont s'en sortir très bien.
Juste en conclusion, parce que là, donc vous êtes cofondateur de Vivatech, vous êtes un personnage clé et vous portez Davos, le World Economic Forum, là qui s'est déroulé. On sait qu'il y a eu beaucoup moins de participants, peut-être la date, mais est-ce que ces grands messes finalement ont toujours leur place aujourd'hui ou pas?
Et je crois que c'est indispensable, surtout après...
C'est pas le monde d'avant, ce n'est pas une question, hein, c'est une question.
Oui, mais c'est vrai que ça peut ressembler au monde d'avant, mais la partie de ce monde d'avant qui consiste à se rencontrer et à avoir ces messes où il y a un moment d'émotion où les gens échangent, c'est une bonne partie du monde d'avant. Je veux dire que les échanges au travers d'écrans glacés, et pour reprendre l'histoire de la conscience à l'intelligence artificielle, ça nous conduit à ce très beau film de Her. Mmh. Et donc, je ne crois pas que les gens aient vraiment envie de vivre des histoires d'amour ou des histoires d'émotion uniquement au travers des écrans.
Merci beaucoup. L'amour à Davos, vaste programme, ou à Vivatech. Merci. Merci Maurice Lévy, donc co-président, merci évidemment, de Vivatech, président du conseil de surveillance de Publicis. Et dans un instant, si on refait l'écho, sera un peu plus politique avec Olivier Babeau et Anne-Charlène Bézina. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Et c'est l'heure dont on refait l'écho qui a déjà commencé, hein, du reste, avec Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste, maire de conférence à Rouen et à Sciences Po Paris. Bonsoir Anne-Charlène.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Et face à vous, avec vous, on verra Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
C'est vrai que on avait besoin de commentaires au lendemain, évidemment, de ce premier tour, sachant qu'il y a un deuxième tour un peu en suspens. Je ne vous demande pas forcément de jouer les Madame Soleil. Mais la question quand même qu'on peut se poser, c'est de savoir si Emmanuel Macron... Qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas une majorité absolue, ou même s'il a une majorité absolue tout juste, vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que c'est terminé les réformes? Comment est-ce que vous voyez les choses, vous, Anne-Charlène Bézina?
Alors, ça change... Alors, la majorité absolue tout juste, j'ai envie de dire, c'est pas si grave que ça, parce qu'une majorité absolue, de toute façon, comme son nom l'indique, ça signifie qu'à 50+1, eh bien, tout passe.
Enfin, on a vu précédemment des Mathieu l'Orphelin qui était le groupe.
Voilà, ça va être aussi une logique de godillot, c'est-à-dire que là, il va falloir vraiment la discipliner, cette majorité, d'autant qu'en plus, on a une majorité coalition, puisque c'est une majorité ensemble. Donc, dans tous les cas, là, on se rend bien compte que le groupe, anciennement l'AREM, aujourd'hui Renaissance, n'est pas grand-chose à lui tout seul. Donc, de toute façon, il devra déjà arriver à avoir des accords dans sa propre coalition, ça c'est la première chose. Est-ce qu'on peut avoir une politique plus frileuse? C'est la question qu'on peut se poser quand même, puisque c'est vrai que dans tous les cas, on va avoir une opposition qui risque d'être assez structurée auprès de la NUPES, et donc du coup d'une gauche qui fera entendre sa voix. Est-ce que ça peut être de nature à infléchir la politique? On peut avoir quand même le sentiment que en tout cas, si on est même carrément dans une majorité relative, les accords, les alliances vont être déterminantes. Et l'intérêt de ces alliances, c'est qu'elles peuvent se faire à droite aussi, parce que LR aura une petite réserve de députés, et que finalement, si l'opposition crie tout seul dans son coin, parce que l'inconvénient d'un scrutin majoritaire, c'est que l'Assemblée, à partir du moment où elle a une majorité, eh bien, elle fait ce qu'elle veut, et que l'opposition, eh bien, elle sera plutôt là pour jouer un rôle de trublion, et pas forcément pour servir. Donc, s'ils arrivent en majorité relative à aller chercher des voix à droite, ça peut même droitiser le discours.
Oui, peut-être, mais en même temps, Olivier Babeau, on a vu qu'il a essayé de débaucher pas mal de... Enfin, en tous les cas, Édouard Philippe a été là pour ça, débaucher quand même, faire des appels du biais. Certes, il y a eu Éric Woerth, mais enfin, ça n'a pas été le grand débauchage. Donc, est-ce que vous, ça met du coup un peu en doute la capacité de réforme du président, à vos yeux?
Alors, sur le papier, une majorité absolue constitutionnellement, ça fait que vous passez le texte que vous voulez.
Oui.
Ça met plus de temps. On peut avoir des piles d'amendements. Il y a beaucoup de hurlements dans l'hémicycle, mais c'est de la mise en scène. C'est de la pantomime parlementaire, donc on connaît et qu'on a vu à très grande reprise. Ça ralentit un tout petit peu, mais fondamentalement, vous passez ce que vous voulez. Maintenant, si votre majorité n'est pas très grande et que vous avez le risque, comme ça s'est vu, certains parlementaires qui, une fois élus, se trouvent qu'ils ont une sensibilité un peu différente et font un peu sécession. Alors là, vous aurez besoin d'essayer de troubler le camp adverse. Aujourd'hui, la NUPES, c'est très très grand. Je sais jamais si on dit NUPES.
Oui, moi je sais pas, personne aujourd'hui, posé aujourd'hui, la question à Philippe Martinez de la CGT, même il savait pas si c'est NUPES ou
Je pense qu'il y a une pratique qui va émerger. Mais aujourd'hui, c'est un bloc. C'est un bloc qui était là pour des raisons électorales, mais on sait très bien qu'à l'intérieur, il y a plein de courants extrêmement différents, mais avec des oppositions sur des choses aussi bêtes que le nucléaire
aussi
ou importantes que le nucléaire. Et donc à ce moment là, il va falloir que la majorité, qui passera son temps à se compter dans l'hémicycle pour pouvoir arriver à faire passer les décisions, essaye de fracturer l'opposition en jouant sur les sujets qui sont clivants. Mmh. C'est donc forcément un peu plus compliqué, et ce qu'on peut craindre, c'est que ça ralentisse en tout cas le train des réformes.
Oui, ça c'est sûr. Mais surtout, c'est que volonté de réforme un peu moins forte. Parce que finalement, la feuille de route du président Macron 2, on la connaît pas beaucoup, non? Enfin, je sais pas, peut-être que vous la connaissez. Enfin, bon, ben, il y a la réforme des retraites, c'était 65 ans avant debout, maintenant c'est 64, on va discuter, etc. Bon.
Il y a deux choses intéressantes là-dessus. La première, c'est qu'en effet, il n'y a pas eu de véritable campagne programmatique. Mais ça a même été le cas pour la présidentielle. On est de moins en moins dans des campagnes politiques programmatiques. Ça, c'est une vérité. D'où le taux d'abstention qui, à mon avis, est un coup de gueule contre cela. Voilà. Il n'y a pas eu vraiment de feuille de route, même si, et c'est le deuxième point, on a des éléments qui étaient plutôt à gauche, puisque justement l'ambition de choisir Elisabeth Borne avait au départ, et de l'entre-deux-tours, avait été d'ailleurs de dire, eh bien non, on va essayer d'aller vers cette jeunesse qui avait voté Jean-Luc Mélenchon, qui avait occupé des amphithéâtres, etc. Donc on était dans un entre-deux-tours voulant gauchiser. Et donc, première mesure, projet de loi de finances rectificative vers le pouvoir d'achat. Une réforme des retraites qui, par contre, là, allait nécessairement cliver. Donc, les deux thèmes sur lesquels on nous avait vendu l'été et la rentrée, on va se demander comment, avec une majorité, avec une opposition, si elle est structurée à gauche, eh bien, comment ça va passer. Alors, la grande question de la structuration de l'opposition et de la structuration de la majorité, ça, c'est quand même des choses qu'on va voir dès les premiers mois de pratique. Parce que l'inconvénient des gouvernances de coalition, hein, on les a connues, hein, sous la Ve République, 73, 78, etc. Et c'est que chacun doit définir son identité dans le groupe. Et donc, on peut avoir une opposition qui s'effondre en quelques semaines, finalement, et une majorité qui, elle-même, va plutôt avoir à aller chercher des voix un petit peu partout. Donc, les deux grands textes, projet de loi de réforme du pouvoir d'achat et des retraites, là, il va falloir jouer gros avec les alliés qu'on trouvera sur le moment.
Oui, ça veut dire qu'il faut aussi structurer les textes. Hein. C'est pas évident quand on voit la loi sur le pouvoir d'achat. Chèque alimentaire, il y en aura pas, on sait pas, sur les retraites, non? Je sais pas, Olivier Babeau.
Entre le premier et le deuxième quinquennat, on a perdu le R de révolution. Mmh. C'était le titre du livre d'Emmanuel Macron.
C'est vrai. Oui, qui était entre parenthèses, je
oui. Oui, très clairement, on est plutôt dans l'évolution, on n'est absolument pas dans la violence. Mais ce qui peut se comprendre après un quinquennat, évidemment, marqué.
Valérie Giscard d'Estaing, changement dans la continuité, c'est totalement.
Voilà, donc là, on est plutôt dans une forme de force tranquille, avec des choses sur le pouvoir d'achat, où on est certain que l'opposition dira ça n'est pas assez, mais enfin, tu peux difficilement protester quand tu distribues beaucoup d'argent, parce que là, on est encore dans le moment robinet grands ouverts. Et tout va bien. Évidemment, on va rentrer dans le dur avec la réforme des retraites, et puis on rentrera dans le dur quand,
d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas si on va rentrer dans le dur.
Je pense que ça va être difficile.
Pacte de stabilité, il va recommencer en 2023. De toute façon, au niveau européen, on est absolument obligé de finir avec
ça. Et la planification écologique, on ne sait pas du tout ce que ça va réellement recouvrir. Je pense que même non plus. Hein. Et ce qui est certain, c'est qu'il y aura toute une partie des gens qui diront que ça ne va pas. Les alliances avec la droite vont être compliquées parce que la droite est réduite à la portion congrue, elle sait qu'elle est menacée dans son existence même, et vous n'existez pas en faisant alliance avec le plus gros, vous existez en essayant de vous opposer. Donc malheureusement, le jeu où vous êtes d'accord avec rien, quoi qu'il arrive, même si le truc n'est pas complètement stupide, malheureusement, ça risque de continuer.
Et puis la droite, il faut qu'elle se reconstitue, pour faire quoi? Autour de qui, surtout?
Parce qu'on a quand même aussi...
Julien Aubert s'est fait battre, c'était compliqué, les figures.
Et il faut parler de la première fois sous la Ve République hors proportionnelle de la constitution d'un groupe Rassemblement National. Donc d'un groupe de la droite plutôt extrême.
Pas encore certain, mais a priori,
on est en train de s'orienter vers cela. Et donc du coup, la droite républicaine se retrouvera isolée face à ce groupe de droite plus extrême. Donc celle-là aussi devra jouer un petit peu le rôle de lien. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une Assemblée Nationale dont on nous avait dit qu'elle ne sera pas représentative. De toute façon, ce scrutin majoritaire distant complètement l'électorat. Pour la première fois sous la Ve République, on n'a pas du tout de majorité absolue, totalement facile, obtenue par le président. Donc on n'a plus ce jeu automatique de la législative qui suit la présidentielle. Donc on a au contraire une composition de force qui est assez fidèle finalement à ce qu'on avait appelé la fracturation en trois blocs de la France, qu'on retrouve complètement dans notre assemblée maintenant, qui finalement sera
plus
une assemblée.
Vous parliez tout à l'heure, je n'ai pas de la logique de Godillot. Là, ça sera plus tellement la logique de Godillot.
Non, ça sera une assemblée de coalition. Il va falloir trouver texte par texte les grands équilibres. Et c'est ce qui est très tendu finalement sous notre Ve République, c'est que si la majorité n'est pas absolue, eh bien au contraire, on se retrouve dans les états de nos anciennes républiques.
Olivier Babeau.
La tripartition, elle doit prendre en compte les abstentionnistes. Hein. Les moins de 35 ans, ils se sont abstenus à 70%. Hein. Mmh. Ça commence quand même, je trouve, à sentir le roussi pour un système représentatif qui perd de plus en plus la légitimité aux yeux de beaucoup de gens et du coup qui produit des choses comme les conventions citoyennes. On va dire, finalement, on va reprendre des citoyens pour décider. On ne fait plus tellement
confiance. C'est le CNR, c'est ce que veut faire Macron.
Oui, il y a cette idée-là.
C'est enterré pour l'instant, mais on sait ce qu'il veut faire.
La question, c'est quelle est la place des parlementaires là-dedans. Moi, je suis de ceux qui, très longtemps, disent qu'il faut redonner donner au Parlement son rôle d'évaluation des politiques publiques, ce qu'il ne fait pas alors que constitutionnellement.
Il faut lui redonner un rôle.
Et lui redonner un rôle et revaloriser dans le travail de production de la loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement, parce que la plupart des ministères ont tendance toujours à faire les choses avec les administrations et puis à donner, après on sait très bien, d'ailleurs il y a eu des déclarations très fortes de la part de certains députés qui ont dit, mais qui ont claqué la porte en disant, mais on nous a vraiment traités comme des moins que rien, capables d'aller passer le papier qu'on nous donnait. Et ça, il n'y a pas l'apparence qu'on en sorte malheureusement. Donc ça va être un jeu d'opposition assez courant.
Il faudra peut-être qu'ils changent justement de logiciel de ce point de vue-là, parce que effectivement, moi, c'est la question que j'allais vous poser, c'est que notamment dans la chez Ensemble ou La République en Marche, il n'y a pas de grande figure.
Non.
C'est une des raisons qui explique aussi le taux d'abstention. Finalement, c'est pas pour qui on vote. Hein.
C'est la vérité. Alors, c'était déjà quand même un petit peu le cas en 2017, où on avait des nouveaux visages absolus, hein, où on connaissait personne, mais où au fond, finalement, cette nouveauté avait emporté l'adhésion de l'électorat. Et c'est peut-être un petit peu ce qui a fait aussi le succès de la NUPES aujourd'hui, en 2022, c'est qu'on voit que la France, le peuple français est attiré vers la nouveauté de la proposition. Parce que justement, il y a un petit peu ce côté blanc, voilà, l'envie de changement qui fait qu'on n'est pas très sûr de soi. Je voulais ajouter un point sur le Conseil national de la Refondation. Alors, moi, j'avais l'impression que c'était quand même une mesure très gadget, parce qu'en général, à partir du moment où on fait participer le peuple à la fabrication de la loi, étant donné qu'ensuite, ce sont les ministères et le Parlement qui récupèrent l'exécution de la loi, ça ne sert absolument à rien. Mais avec cette question de l'opposition NUPES, eh bien, court-circuiter le Parlement pourra être une tendance à laquelle le gouvernement pourrait céder avec beaucoup de facilité. Moi, je pense, encore une fois, que c'est très dangereux de se couper du Parlement, surtout dans des périodes où la France est à ce point-là fracturée, parce que, au contraire, cette volonté de représentativité du Parlement, elle est très forte démocratiquement. Donc, à voir, mais en tout cas, ce nouvel équilibre avec le CNR, là, va peut-être avoir...
Vous êtes d'accord, Olivier Mavro?
Je trouve que c'est une boîte de Pandore, mais je vous dis, depuis la Convention citoyenne, c'est une boîte de Pandore terrible, où on imagine qu'on va pouvoir
forcer la main citoyen,
aux parlementaires en utilisant les citoyens, mais en fait, les citoyens, ils sont assez incontrôlables. Comme dans toutes ces façons de demander leur avis aux gens, on sait que c'est les minorités actives qui, d'une façon ou d'une autre, vont arriver à s'exprimer le plus. Comme
aussi.
Ça, la plupart
aussi.
Du temps, la plupart des gens, ils n'ont pas trop d'avis. Ils pas. Et donc, vous avez plutôt une foule qui va imposer à la représentation nationale des directions qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc, je pense qu'en termes de tactique et en termes de conséquences politiques, c'est très, très mauvais. D'ailleurs, on l'a vu avec la Convention citoyenne, où tout le monde a trouvé que ça avait été une mauvaise idée, y compris les gens qui participaient, parce qu'ils avaient été frustrés de voir qu'on n'était pas allé au bout de l'adoption.
Oui. Ça ajoute de la frustration.
Ça ajoute de la frustration, absolument. Vous avez raison, Olivier. C'est-à-dire le fait de s'être arrêté à peu près, pas à mi-chemin, mais enfin au bout du processus, sans que ça se transforme, ça a conduit... Deux questions quand même. Le vote électronique, ça peut changer la donne ou pas? Parce que c'est les jeunes, vous l'avez souligné, Olivier, en disant, c'est quoi le taux que vous avez donné?
70% des moins de
35
ans.
Des moins de 35 ans.
C'est énorme.
C'est gigantesque. Oui. Ils n'ont pas voté, mais lui, peut-être que s'ils avaient pu voter avec leur smartphone, peut-être qu'ils auraient été...
Pourquoi pas, les questions...
Changement générationnel. Hein.
C'est vrai, la question c'est toujours celle de, alors la solennité, deux, les principes constitutionnels, secret, liberté du vote, etc. Et puis le contrôle aussi, comment contrôler l'identité, comment contrôler l'absence de double vote, etc. Est-ce qu'on ne va pas perdre beaucoup d'argent aussi à avoir des autorités indépendantes du contrôle? C'est toujours le risque aussi lorsqu'on change les techniques, alors que cette technique acquise finalement, c'est juste celle du mouvement citoyen. Moi je crois que ça se passe bien plus dans le discours politique d'ailleurs même que dans la réforme institutionnelle. C'est-à-dire qu'il faut arriver à retrouver...
Dans l'envie.
Voilà, à retrouver de l'envie, à retrouver un discours qui donne de l'envie.
Oui, parce qu'en tout cas, c'est peut-être...
C'est comme pour le savoir à Internet. Avoir accès au savoir à un clic, ça n'a pas fait que les gens avaient plus l'usage du savoir. Parce que l'accès, c'est pas le savoir. Ouais. Je pense que l'abstention, c'est un symptôme beaucoup plus profond d'une désaffection, d'une incompréhension, peut-être d'une haine des élites. Et donc, c'est pas en obligeant les gens ou en donnant des gadgets, évidemment, qu'on va arriver à régler ça.
Est-ce que... alors, on aura l'occasion d'en parler. Pardonnez-moi cette question qui peut paraître un petit peu prématurée. Mais malgré tout, ça vous conduit pas à une réflexion sur la 6ème République. On sait que ça a été le cheval de bataille d'Arnaud Montebourg et de bien d'autres. Donc on disait ce sont des extrémistes. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à conduire là-dessus?
Alors,
vous, la constitutionnaliste, Anne-Charles.
La constitutionnaliste que je suis se méfie un peu des 6ème République parce que j'ai toujours le sentiment qu'elle peut devenir une 4ème bis. Parce que finalement, si on se penche sur les excès du présidentialisme, on va redevenir une République parlementaire et donc on va retomber sur
l'argument qu'on met tout le temps en avant. Mais est-ce qu'il n'y a pas entre les deux?
Il y a un juste milieu. En effet, il y a quelque chose à changer. Je pense notamment, même ne serait-ce qu'en termes d'appétence des Français, on nous a souvent dit les réformes institutionnelles n'intéressent pas. Et c'est la vérité. Par exemple, la réforme du quinquennat, qui est la dernière réforme constitutionnelle qu'on a fait passer, elle est passée complètement inaperçue au niveau des Français. Là, j'ai l'impression que le peuple a envie de se saisir de cette question. Donc peut-être que c'est le bon moment pour tenter des éléments. On peut par exemple déconnecter les législatives des présidentielles, au contraire les placer le même jour, mettre une dose de proportionnelle, changer un petit peu la représentativité du président, en le déconnectant du Conseil des ministres. Il y a beaucoup de choses à réfléchir et c'est le moment.
Et vous, Olivier ?
En économie, on est contre l'obsolescence programmée. On dit de plus en plus qu'il faut réparer ce qui est abîmé. Et ben, c'est exactement la même chose. Cette belle constitution, quand le pouvoir est à terre, on ne sait jamais trop qui va le ramasser et dans quel sens ça va. On sait très bien la Révolution française, combien ça a oscillé, combien c'était compliqué, et combien il y a eu des moments un peu difficiles. Donc moi, je trouve que cette constitution, elle peut être très bonne si on l'améliore. Au lieu de la truffer de trucs un peu inutiles et dangereux et qui font des dérives, au contraire, on pourrait essayer de lui redonner des leviers qui lui donneraient du pouvoir. Mais je pense, par exemple, alors c'est pas dans la constitution, mais le non cumul des mandats a été une bêtise absolue, totale.
Incroyable.
Et pour moi, c'est un truc aussi simple que ça. Le cumul des mandats, il a tué le politique. Du coup, il n'y a plus que de l'administration. Et il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas le poids qu'ils pourraient avoir face à l'administration. Et ça, ça tue la représentation. Et justement,
on ne sait plus pour qui on vote. Parce qu'ils sont un peu hors sol.
Peut-être en essayant.
Ils sont hors sol, il faut le dire. Ils sont très gentils, mais ils sont hors sol.
Peut-être en essayant de lutter quand même contre l'absentéisme. Parce que c'était la première cause du non-cumul des mandats.
C'est
se dire, il faut que les députés aient voté. Et ça, je crois que c'est notamment un des leviers qui avait été proposé par Yann Brown-Pivet dans le mieux travailler, c'est que le Parlement a déjà les moyens de mieux travailler, ne serait-ce que dans le règlement des assemblées, dans les lois ordinaires et organiques, sans toucher à la Constitution, on peut arriver à mieux travailler au Parlement. Et ça, je crois que c'est vraiment une des clés de la réussite, lutter contre l'abstentionnisme sans forcément déconnecter les députés de leur base locale. Je suis d'accord.
Avec la pédagogie, avoir ce travail parlementaire, parce qu'on n'a pas besoin des 577 gus en permanence dans c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui se font en amont. Il faudrait réserver cette présence de tout le monde pour des moments très spécifique,
solennel.
Une loi très solennelle, mais en pratique, la loi, elle peut, d'ailleurs, elle est toujours trop bavarde, il y en a beaucoup trop, et ça, il faut arrêter la machine à produire des lois, mais elle peut être faite d'une autre façon. Il faut aussi expliquer aux gens ce travail parlementaire.
Expliquer, c'est ce qu'on a essayé de faire. Merci Anne-Charlène d'avoir été avec nous, Anne-Charlène Bézina.
Merci à vous.
Donc, de conférence à Rouen et à Sciences Po. Merci Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens. Voilà, c'est la fin du Grand Journal de l'Écho. Rendez-vous, bien sûr, demain. Vous pouvez nous réécouter podcast sur BFM Business, et puis la rediffusion 22h minuit. Sinon, à demain. Bonne soirée.
Le Grand Journal de l'Écho sur BFM Business.